La famille lutin, conflit fraternel. J'ai aimé ce petit extrait de cette chanson de Trio qui dise « Trop petit pour demain et trop grand pour hier, on reste, c'est certain, adolescent et fier. » Trop petit pour demain et trop grand pour hier, c'est notre condition. Et puis ce verset dans Éphésiens 5, 16, il y a beaucoup de traductions différentes, mais j'en ai mélangé plusieurs pour donner celle-ci. Rachetez le présent car les jours sont méchants. Hein, pas juste mauvais, mais méchants. Méchant. Dans la famille Tang, comme dans de nombreuses familles humaines, il y a de graves conflits dans la fratrie. Depuis toujours, toutes les familles qui ont eu le privilège d'avoir plus d'un enfant le savent bien. Quoi que fassent les parents, quels que soient leurs efforts pour être justes, impartiaux, équitables, un jour leur petit trésor leur reproche d'avoir favorisé l'un d'entre eux, d'avoir eu un chouchou. Tous ceux qui ont des enfants, un seul grand, le savent. Et le chouchou, c'est jamais nous, c'est toujours l'autre. Chez les temps, chez la famille temps, c'est le présent qui détient ce statut envié et détesté. Dans son frère aîné, le passé ne supporte pas d'avoir été, de ne plus être, de ne pas occuper le devant de la scène. Reconnaissons-le, c'est dur d'être traité de has-been, de se dire qu'on est dépassé, plus à la page, démodé. C'est désagréable d'être imparfait, d'être obligé de composer avec un auxiliaire. Et même lorsqu'on essaie de simplifier, c'est une catastrophe. Catastrophe, je sais pas. Vous fûtes. Comment voulez-vous être épanoui après de telles terminaisons? Le plus jeune frère du présent, le futur, n'est pas plus satisfait. Tout le monde sait bien qu'un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Être tellement incertain qu'on vous confond toujours avec le conditionnel. Il y a de quoi devenir amer, vivre de promesses jamais tenues, d'espérances toujours repoussées, d'attentes reportées. Demain, on rase gratis. On verra bien, je viendrai, je ferai, je changerai. Surtout en début d'année. Et lorsque parfois vient l'accomplissement, c'est toujours ce sale présent qui récolte les lauriers. C'est lui qui reçoit tout le crédit. Aussi belles que soient les provisions, les prévisions, si elles se réalisent, c'est ce maudit présent qui empoche la mise et qui profite sans vergogne. Et puis, derrière cette grogne familiale, il y a au moins une raison objective. Leur père, celui qui enfanta l'espace et le temps, porte le prénom « Je suis ». Avouez qu'il y a de quoi être jaloux, de quoi se sentir dépossédé. Devant cette terrible injustice, passé et futur se sont ligués, unis pour une vengeance familiale implacable. Puisque nous serons toujours les deuxièmes, puisque nous ne sommes pas les préférés, puisque nous ne pouvons même pas le faire mourir, nous ferons tout pour pourrir la vie du présent, ont-ils déclaré d'une même voix. Je l'accablerai, je l'écraserai de nostalgie, de remords, de regrets, a ajouté le passé. Je l'éblouirai d'illusions, je l'empêcherai de profiter de l'instant, je détournerai son attention, je lui volerai le plaisir du moment par de continuelles promesses, a ajouté le futur. Frustré, mais un brin soulagé par cet épanchement d'amertume et de méchanceté, passé et futur se sont serrés la main pour sceller ce pacte éternel. Enfin, éternel, il faut le dire vite. Car dans la famille Tang, comme dans les familles humaines, tout passe, tout a une fin. Tout à voir. Et là, je me suis trompé de feuille pour voir la suite. Excusez-moi, ça va arriver là. Car, à bien y réfléchir, c'est encore ce sale présent qui risque de bien s'en sortir. Certaines rumeurs prétendent qu'il pourrait être éternel. Je passe la conclusion. Alors, j'ai écrit ce petit texte un petit peu avant les fêtes, en pensant au temps qui passe, à ces choses-là, puis parce que j'ai écouté Trio à ce moment-là, il faut le dire. Voilà. Et en même temps, ça m'a été utile, ça m'a interpellé pendant ces fêtes, même si je dois avouer que j'ai, dans l'ensemble, pas mal échoué à pouvoir vivre ces choses-là, donc... Je ne donne pas de leçon ce matin. Je vois ce qu'il faudrait, mais j'y arrive pas. Peut-être jamais, mais c'est ce qu'on dit. Racheter les temps car les jours sont méchants ou mauvais. Les jours sont agressifs pour nous voler un présent de qualité. Je voudrais vous lire 2-3 versets. Dans 2 Corinthiens 6-2, Dieu déclare dans l'Écriture, « Au moment favorable, j'ai répondu à ton appel, et au jour du salut, je suis venu à ton secours. Or, c'est maintenant le moment tout à fait favorable, c'est aujourd'hui le jour du salut. » Et puis, dans Hébreux 4-7, « Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant à David, si longtemps après, comme il dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Alors, le premier sens de ces deux versets, c'est bien de parler du fait que nous sommes dans la période qu'on appelle de la grâce et que chaque jour, aujourd'hui, depuis l'œuvre de Christ, on peut accéder à la reconnexion avec Dieu, qu'on appelle communément le salut, mais j'aime pas trop cette expression parce que ça veut tout et rien dire, et pouvoir retrouver une connexion avec Dieu et être mis au bénéfice de ce qu'il a fait pour nous, pour que nous soyons en paix avec lui et que nous puissions vivre dans sa présence. Donc c'est le premier sens de ces versets. Mais on peut les utiliser comme une application pour voir cette invitation que Dieu nous donne à vivre au présent. C'est très important pour nous, puisque en tant qu'être humain, les vraies choses ne se vivent qu'au présent, bien sûr. Et en même temps, on sait tous que le présent est insaisissable. Donc c'est assez difficile, hein, parce que le temps que je vous le dise, le début de ma phrase est déjà dans le passé, et c'est parti. Mais on a besoin, nous, de comprendre ce qui se passe là. Et une image que je trouve intéressante, là aussi, ce n'est pas le premier sens de ces textes, hein, mais c'est des illustrations pour nous. Dans le Lévitique, il y avait des explications qui étaient données sur comment les prêtres devaient offrir les sacrifices, les holocaustes. Et dans Lévitique 6, je vous lis ça, mais après, ça paraît un peu compliqué, mais on va lire tout ça, vous allez voir, c'est simple. C'était une prescription qui était donnée sur comment faire les sacrifices. Lévitique 6. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Transmet ses commandements à Aaron et à ses fils. Voici la loi concernant l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin, et le feu y restera allumé. Le matin, il enlèvera les cendres grasses provenant de la combustion de l'Holocauste sur l'autel, et les déposera à côté de l'autel. Puis il changera de vêtements, emportera les cendres hors du camp, dans un endroit rituellement pur. Le feu devra rester allumé sur l'autel et ne jamais s'éteindre. Le prêtre l'alimentera en bois tous les matins. Il disposera l'Holocauste dessus et brûlera les graisses des sacrifices de communion. Le feu se fera perpétuellement allumé sur l'autel. Il ne devra jamais s'éteindre. Pour moi, ça m'aide à visualiser les choses. Hein. Voilà, il y a un autel avec un feu qui ne doit jamais s'éteindre. Et d'un côté, il y a une pile de bois pour alimenter le feu. Et puis de l'autre, il y a des cendres qu'il faut enlever pour que le feu montre pas étouffé sous les cendres. Et voilà, cette flamme qui brûle, c'est notre présent. Il est alimenté avec le bois, qui est notre futur. Et puis, ça produit quoi? Des cendres. Et là, il y avait des consignes très particulières, alors ça a des sens rituels, etc. Mais pour nous, il y a une application plus simple qui est intéressante. C'est le fait qu'on doit être responsable du temps, même si, comme je l'ai dit, on ne peut jamais le saisir, il passe le temps. Lorsque Dieu a mis les premiers êtres humains sur Terre, il leur a donné la Terre à gérer et administrer, à cultiver et garder, voilà. Mais ils avaient une responsabilité, il y avait un territoire, et puis il fallait en prendre soin, le cultiver, le développer, etc. En respectant la vie, ce qui était là, hein, c'était le début de la permaculture, ça fonctionnait bien à l'époque. Après, on a un peu pourri les choses, on essaie d'y revenir, mais on a du mal. Voilà. Et le temps, pour nous, c'est un petit peu comme ce royaume qui a été confié à Adam et Ève, et puis là, eux, ils ont un petit peu mal réussi leur coup, hein. On n'aurait pas fait mieux. Mais nous avons tous... tous les jours, un royaume qui nous est offert, c'est nos 24 heures de journée, après on se lève, il y a déjà une partie qui est passée, ça dépend de où on compte, ça fait 324 heures. Et puis, ce royaume, c'est le nôtre. Et Dieu nous dit, cultive-le et garde-le. C'est-à-dire que si j'ai pas une réflexion là-dessus, si je prends pas des décisions, si je le cultive pas et si je le garde pas, je vais être déjà un mauvais administrateur, mais surtout, je vais mal vivre. Le temps a un point commun avec l'argent, c'est un très bon serviteur et un mauvais maître. Les deux sont les mêmes. Lorsqu'ils sont entre services, c'est extraordinaire. Hein, parce qu'on se dit, wow, maintenant j'ai le temps de... On ne dit pas ça souvent, d'ailleurs. Hein, je ne sais pas si vous avez remarqué. Wow, maintenant j'ai le temps de m'arrêter et de lire un quart d'heure. Maintenant j'ai le temps de m'arrêter et de rien faire pendant un moment. Maintenant j'ai le temps d'aller au travail sans courir et d'arriver à l'heure. Et lorsqu'on vit comme ça, c'est fantastique. Le stress disparaît, on est content d'arriver parce qu'on est parti à temps et qu'on arrive à l'heure sans courir. Et on est content quand ça se termine parce que c'est le temps que ça se termine. Moi, on n'a plus le temps de passer à la chose d'après. Donc, lorsque nous sommes les cultivateurs intelligents du temps, il est notre meilleur allié et c'est la seule chose devant laquelle tous les êtres humains sont égaux. On est pauvre, on est riche, on est grand, on est petit, on est beau, on est moche, on est... Mais tout le monde a le même temps dans une journée. Alors bien sûr, un jour, notre temps s'arrête, et certains meurent jeunes, certains meurent vieux, certains... Donc, on n'a même pas la même quantité de temps, mais en tout cas, dans une journée, tous les vivants ont le même nombre d'heures et de minutes et de secondes. Hein. Et donc, je crois que c'est important qu'on apprenne, et je vous dis, je dis ça, j'y arrive pas, mais qu'on y réfléchisse. À être des administrateurs de ce temps, ça devrait être une des premières choses qu'on apprend. Mais bon, même dans un pays, hein, voilà, les montres ici, c'est quelque chose, hein, il ne me semble pas qu'on est plus fort ici qu'ailleurs dans ce domaine-là. Dans le, on vous a distribué, pour ceux qui étaient là, sinon il y en a encore sur la table ici, etc., un petit document comme ça, qui s'appelle « Une année intentionnelle ». Et puis dedans, vous trouvez plein de choses, des dates, des événements qu'on a prévus, deux, trois petits messages, la vision pour 2019, etc. etc. Et ce petit livret, on l'a fait parce qu'on s'est dit, on l'a fait, j'en ai écrit une partie mais avec Marc, Mathieu, c'est quand même incroyable dans un pays comme la Suisse où tout le monde vit avec son agenda à portée de main, planifie tout le temps, que chaque fois qu'on a un événement d'église, sans exagérer, j'ai minimum 3, mais en général 5-6 personnes qui me disent « Ah, c'est dommage, j'aurais vraiment aimé être là, mais j'ai autre chose. » J'ai dit « Mais c'est pas possible. » C'est pas possible, pas en Suisse. En France, oui, on n'a pas l'agenda. En Afrique, où ils n'ont pas de montre, mais ils ont le temps, peut-être. Ailleurs, et pas ici, où tout le monde sait ce qu'il fera en 2021, le 13 janvier. Parce que c'est déjà écrit. Et donc, la réflexion qu'il y avait, parce que moi je suis debout, hein, je dis ici, je m'adapte. Hein. Avant j'étais organisé, maintenant c'est pas. Merci. Mais je vois comment, c'est plus, tout le monde n'est pas dans cette situation-là, certains le sont, hein, les retraités sont comme moi, ceux qui sont indépendants. Moi, à part quelques événements, je dois organiser mon temps. Et c'est. J'apprécie beaucoup, hein, je suis content, mais c'est en même temps plus difficile que quand on doit être au bureau à telle heure, à sortir à telle heure, et puis repartir à telle heure. Mais de toute façon, quelles que soient nos contraintes, parce qu'on en a tous, hein, on doit déjà être conscient de cette chose-là. Je suis responsable du temps qui m'a été confié. En fait, maintenant j'essaie de ne plus dire « je n'ai pas eu le temps » ou « je n'ai pas le temps », c'est faux. J'ai le temps comme tout le monde. J'ai le temps pour ce que je veux. Oui, mais je suis obligé de rien. Alors oui, il y a certaines obligations parce que j'ai fait des choix qui nécessitent des responsabilités, effectivement, mais j'ai le temps. J'ai le temps pour ce que je veux. Donc ça, c'est déjà, et pas, on ne doit pas culpabiliser avec ça, mais on doit être conscient parce que c'est un cadeau qui nous est fait, du temps. Et puis souvent, moi, je me dis, vous savez comment c'est quand j'étais enfant et que les vacances d'été, parce qu'en France, c'était 3 mois et des poussières à l'époque, c'est pour 3 mois, mais c'était un peu plus à l'époque, j'étais petit. Donc, quand vous avez 7, 8, 9 ans, et que vous avez 3 mois devant vous, c'est l'éternité. Ça n'aura pas de fin. Bien sûr, cette éternité-là, elle n'est pas longue, même vers la fin. Et puis, tout d'un coup, vous vous retrouvez à quelques heures, ou à un jour, et quelques heures de la rentrée des classes. Et tout d'un coup, le temps de... Ah, il en manque. Alors qu'au début des vacances, on était là, maman, je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que je pourrais faire, où je pourrais aller. Mais là, on arrive au bout et j'ai bien fait, où j'ai tourné en rond, où j'ai fait des trucs. Et là, j'aimerais, il n'y en a plus. Et on est tous comme ça, et puis ben, je ne suis pas au bout de ma vie, parce que je ne sais pas, peut-être j'y suis. Et voilà, plus le temps passe, plus on va penser comme ça. Et j'ai dit, c'est trop bête d'en prendre conscience 5 minutes avant ma mort et de me dire, hey, j'ai pas pris le temps. C'est bien, je l'aime le Seigneur. Mais on est vivant, on est sur terre. Donc voilà, déjà, c'est la première idée. Et une chose qui est importante, c'est que pour bien utiliser et gérer son présent, il faut prendre soin de son passé et de son futur. C'est pour ça que j'ai écrit ce petit texte en réfléchissant à ça, parce que ça m'a amusé aussi. Mais le passé et le futur, s'ils sont à leur place, s'ils sont domptés et maîtrisés, bien sûr, ils sont les amis du présent, parce qu'ils sont le passé, c'est le présent d'hier, et le futur, c'est le présent de demain. Hein, donc voilà, ils sont liés. Mais soit ils me permettent de vivre mon présent en le dégustant, en étant le maître, soit ils me le détruisent. Et on voit dans le texte que je vous ai lu au début, avec ce prêtre qui devait tous les jours enlever des cendres. Alors, je ne sais pas comment il faisait pour enlever des cendres sans éteindre le feu, qui ne faisait pas s'éteindre. Ouais, c'est faisable, mais c'est un peu une verre gris, ça passe dessous. Ouais. Bon, j'y étais pas, mais il semblerait. Voilà. En fait, il y a quand même cette espèce de défi qui était, il faut toujours qu'il y ait de la flamme, donc il faut toujours qu'il y ait du bois prêt, parce que ben, le feu, ça consume, et puis il faut toujours enlever les cendres et les porter dans un lieu saint. Alors, sans rentrer dans une typologie qui serait fausse, en essayant de donner un sens à tous les détails, c'est juste une illustration, on voit quand même que l'idée qui est là, c'est que je dois faire quelque chose et prendre soin de mon passé et de mon futur. Il y a des théories simplistes dans le christianisme qui disent « Ah ben, si vous êtes croyant, votre passé n'existe plus. » On a même chanté tout à l'heure, mais ça peut voir quelque chose. Voilà, on n'a plus de passé, parce que Christ a tout enlevé. Moi, désolé, mon passé, il me suit, il y a tous les jours, il est là. Oui, Christ est mort pour mes péchés passés, etc., etc. Mais mon passé, il est là. Il y a des erreurs que j'ai faites il y a 30 ans, et je les fais encore aujourd'hui, et il y a des choses bien que j'ai faites, et j'en ai les fruits aujourd'hui, et puis il y a des blessures que j'ai eues dans le passé, et ben, j'ai essayé de faire quelque chose avec, mais elles sont là. Notre passé ne disparaît pas parce qu'on est chrétien. Mais dans notre passé, il y a plusieurs choses. Dans ces cendres, il y a des choses précieuses, il y a des choses qui ne valent rien, et puis il y a des choses qui sont toxiques. Et je ne peux pas développer tout ça en détail ce matin, mais je vous jette ça comme des pistes à réfléchir chez vous, ceux qui ont le temps de réfléchir. On doit apprendre à traiter notre passé. Parce que vivre comme s'il n'existait pas, ça n'existe plus, c'est passé. Et encore une chose, on est tous différents dans notre rapport au temps. Hein. Il y a des gens qui n'aiment que le passé. Ils vivent comme ça. Puis il y a des gens qui vivent que dans le futur, parce que toujours il leur faut 3 projets d'avance pour oublier la qualité déplorable de leur présent. Et puis entre ces 2 extrêmes, on est tous quelque part et puis on mélange tout. Donc on est différents dans nos tendances naturelles. Mais qui que nous soyons, on doit gérer le tout pour réellement apprécier et être maître de ce que nous vivons aujourd'hui. Et donc dans notre passé, on doit savoir faire du ménage. J'ai fait une erreur, ça a eu des conséquences, c'est grave, ça me fait « ok, je le reconnais, je le traite. » Si c'était quelque chose qui relève de l'ordre du mal ou du péché, je le confesse à Dieu, il me pardonne, il me purifie. Mais il n'enlève pas la mémoire, c'est là. Hein. Mais c'est une chose qui a été traitée, qui a été, voilà, on l'a neutralisée, on va dire. Hein. On l'a mise en quarantaine parce que, ben oui, j'ai mal réfléchi, j'ai pris cette décision-là, ça m'a fait souffrir, ça a fait souffrir des gens. Ça a produit des fruits amers que je consomme encore aujourd'hui. Ok, ça c'est les conséquences, c'est pas une punition. Mais je le traite, j'en fais quelque chose. Christ m'a pardonné ça, et puis j'ai demandé pardon aux gens que j'ai blessés peut-être. Et c'est toujours là, ça fera partie de moi. Mais maintenant, c'est enfermé dans le pardon de Christ, c'est dans ce qu'il fait, et c'est là, mais ça peut plus me détruire, ou ça devrait plus me détruire. Puis, il y a, ça c'est peut-être une autre chose qui est triste, c'est lorsqu'on regarde le passé et on s'aperçoit qu'il y a plein de choses sans valeur, qui ont brûlé, qui ne servent à rien, et qui ont passé à la poubelle. Elles ne vont pas être portées par le prêtre dans un lieu pur. Et ça, c'est peut-être le plus terrible de nos jours, où on est tellement sollicité tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, parce qu'on est chrétien, on a quand même des grandes limites qui font qu'on ne vit pas dans le mal du matin au soir. mais on vit sans intention, de façon insignifiante, sans but et sans savoir. Et en fait, on pêche, entre guillemets, en brûlant notre temps pour rien. C'est-à-dire qu'on vit une journée, et à la fin de la journée, dans les cendres, on cherche, et il n'y a rien. Et elles ne vont pas dans un lieu pur. Parce qu'il y a une troisième possibilité, là il dit que c'est cendres, et j'aime bien qu'on traduit semeur, il a rajouté un mot, mais c'est correct, les cendres grasses. C'est-à-dire qu'on a brûlé quelque chose, mais il y avait une bestiole qui était brûlée aussi sur le bois, hein, et il est resté les cendres grasses. C'est pas juste du bois. Hein. Et ces choses-là, le prêtre devait se changer, le rituel, pas les mêmes caleçons, pas les mêmes trucs, pour le porter dans un endroit pur. Et ça, on peut le mettre en lien avec un texte du Nouveau Testament que je vais vous lire, qui est souvent très mal utilisé d'ailleurs, mais je n'ai pas le temps de développer ça. Dans 1 Corinthiens 3:9 à 15. 1 Corinthiens 3:9 à 15. Vous lirez, vous le déférez, je ne vous lis pas le texte, c'est trop long. Je vous explique. Paul dit, j'ai posé le fondement dans vos vies. Il parle aux chrétiens de Corinthe, donc il nous parle à nous, hein, il parle aux croyants. J'ai posé le fondement. Ce fondement, c'est Christ. Maintenant, chacun de vous est responsable des matériaux avec lesquels il construit. Et il y a deux catégories de matériaux. Il y a le bois, le chaume, la paille, tout ce qui brûle. Et puis, il y a l'or, les pierres précieuses, etc. Des choses qui ne brûlent pas. Et il dit, à la fin de vos vies, au jour du jugement, hein, pas jugement pour savoir si on va en enfer ou pas, ça s'est réglé à cause de Christ. Mais en fait, au passage, savoir qu'est-ce que je prends dans mes valises pour entrer dans la vie d'après cette vie, pas dans la vie éternelle, parce que la vie éternelle, on y est déjà là, mais dans la vie après cette vie. Hein. Qu'est-ce que je vais prendre dans mes bagages? Et en fait, le regard de Christ, qui est comme une flamme de feu, c'est symbolique, bien sûr, il va regarder nos journées, et ça se fait en temps réel, en fait. Hein. Et puis, il y a plein de choses qui sont, c'est pas du péché, c'est pas mal, c'est juste, c'est rien. Hein. J'avais pas l'intention, je pensais à rien, j'étais juste occupé, je faisais des choses. Et à la fin de la journée, il reste rien. Mais par contre, heureusement, dans nos journées, il y a ces petits moments-là. Paf, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai trouvé son regard, on a échangé quelque chose. Paf, ça ne brûle pas. J'ai vécu un moment dans la conscience de la présence de Dieu. Paf, ça c'est éternel. Etc., etc. Je peux faire la liste de tout ce qui ne brûle pas. Il y en a beaucoup, heureusement. Hein. Et à la fin de ma journée, ben voilà, c'est le moment d'enlever les cendres d'aujourd'hui. On souffle dessus. Alors, il y a la poussière, parce que forcément, on ne peut pas être intentionnel 24h/24. Mais waouh, il reste ça. C'est beau. Hein. J'ai rencontré Virginia, on a discuté 10 minutes. Et ça m'a fait tellement de bien, ça lui a fait du bien, je ne sais rien, mais c'était un moment dans la présence de Dieu, c'était ça, pour toujours, ça fait partie de moi. Hein. Et chaque jour, comme ça, on peut sauver des cendres, des petits trésors, qui nous enrichissent. Parce que quand on va partir, ben on le sait tous, on dit tout le temps, c'est la formule, un peu d'enterrement, on ne prendra rien, etc. Tout à fait. Oui, on ne prendra pas nos voitures, nos montres, nos maisons et nos réputations, mais on va prendre des choses. Et la fin de ce passé, de ce verset, ce passage plutôt dans 1 Corinthiens 3, elle est assez dramatique. Hein. Elle dit, si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve du feu, son auteur ne reçoit pas son salaire. Ce n'est pas un salaire, ça veut dire que tout ce qui a résisté, ben, c'est pour lui. Hein. Mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui, personnellement, il sera sauvé. Mais tout juste comme un homme qui réussit à échapper au feu. Hein. Vous savez ces histoires qu'on voit où certaines ont vu des voisines, hein, la maison qui brûle, et vous sortez dans la nuit juste avec le caleçon. La maison a brûlé, et vous n'avez plus rien. C'est dramatique. Hein. Ben, c'est une image que Dieu utilise pour dire, voilà, si tu ne sais pas gérer ton temps, en être le maître, en faire des choses avec, tu vas quitter cette vie en caleçon, allez, minimum, parce que les vies ne coulent pas. Mais c'est tout. Hein, c'est le salut, le caleçon. Ouais, tu seras avec moi pour l'éternité, mais tout pauvre, tout minable, tout riquiqui. Hein. Ou alors, tu vas arriver là-bas, des valises pleines de toutes ces choses qui étaient, où tu as transformé du temps qui disparaît en monnaie éternelle. Il y a des légendes dans tous les pays du monde sur ces alchimistes qui voulaient transformer du plomb en or, etc. etc. Et en fait, Dieu nous a donné ce pouvoir. Le temps, comme je l'ai dit, le temps que je dis cette phrase, il n'est plus là. Mais si je vis ce moment intentionnellement dans quelque chose qui a de la valeur selon la vérité pour Dieu, je transforme ce rien en quelque chose d'éternel, et paf, il est stocké dans mes poches éternelles pour l'éternité. C'est pas extraordinaire, ça? Et là, maintenant, vous voyez comment il y a plein de choses qui sont, on a compris, qui nous ont été présentées comme des lois, mais qui ont une vraie raison derrière. Pourquoi pendant des générations on a insisté en disant il faut venir le dimanche matin au culte? Alors on ne vient pas au culte, c'est le culte, on est derrière. Mais il y a quelque chose de vrai derrière. C'est que, tiens, on disait dans la semaine, parce qu'à l'époque les gens travaillaient aussi le samedi, hein, ben, il y a ce moment où on se met tous d'accord pour en sortir quelque chose de valeur. Alors c'est pas que le fait d'être là, ça a de la valeur, mais c'est que c'est un moment qu'on place intentionnellement pour être avec Dieu et avec d'autres personnes qui lui aussi ont les mêmes causes, qui ont les mêmes valeurs. Et on va arracher au néant ce moment. Et ce n'est pas un péché de ne pas être là ce matin, il n'y a pas de souci, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que j'en fais? Je peux être ici et qu'il n'en reste rien. Tiens, hein, et je peux être ailleurs et qu'il en reste des choses. Ce n'est pas le lieu. Mais ce que je veux dire, c'est que on doit être intentionnel, n'est pas votre mot, avec nos vies pour savoir ce qu'on fait de notre temps. Voilà, je pourrais continuer longtemps. Je voulais faire trois parties, trois dimanches, mais ça aurait été trop long parce que j'arrive pas à vous avoir trois dimanches de suite les mêmes. Donc je concentre tout dans un dimanche, on s'adapte. À vous de développer plus, de creuser ou de faire comme Geneviève qui m'envoie des questions. J'essaie d'y répondre. Merci Geneviève. Ça me facilite la vie. J'ai pas me creuser la tête pour le prochain sujet. On a aussi un futur. Et notre futur, c'est le bois qui va nous consumer. Donc, le futur, on pioche sans arrêt dedans. Par exemple, je vous parle, je suis en train de grignoter mon futur. D'ailleurs, il passe à une allure. Tant pis pour vous, on a arrêté les horloges aujourd'hui. Je me prends pour un président français. Je suis le maître des horloges. Quelle arrogance, hein. Voilà. Donc, notre futur qui est devant nous, cette pile de bois, on en a tous la même quantité pour le temps qu'on est vivant, on va dire. Et il y a deux pièges à éviter avec le futur. Deux gros pièges, il y en aurait plein. Mais un, c'est la peur du lendemain, de l'inconnu, de ce qu'on ne sait pas. Il y a des gens qui font rien de leur vie tellement qu'ils ont peur de ce qui pourrait se passer demain. C'est dramatique. Moi, j'en ai connu plein. Ils voulaient faire des choses, ils voulaient partir en mission, ils voulaient aller. Ils avaient peur. Et à la fin de leur vie, ils n'avaient rien fait. Hein? Ils n'ont pas fait d'erreur. Ils n'ont juste rien fait. C'est triste. Les gens qui font des choses sont des erreurs, c'est pas grave, voilà, mais c'est pas probable. Hein. Donc c'est vraiment important, parce que cette peur de l'inconnu qui nous pousse à l'inaction, c'est exactement ce qu'a fait dans la parabole des talents, celui qui dit « Je savais que tu étais un maître méchant, j'ai pris ton or, je l'ai mis en terre, tu reviens, reprends-le. » Et Dieu dit « Ah là 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 là, prenez même ce qu'il croit avoir et donnez-le à ceux qui ont le plus. Hein. » C'est terrible. Donc il ne faut pas ne rien faire parce qu'on a peur. Si on le fait, on va se tromper, bah, tant pis, on fait au mieux. On essaie, mais on y va. Voilà. Ça serait aussi à développer, ça pourrait faire beaucoup de choses, mais je vous le laisse. Et l'autre piège avec le futur, c'est le manque de sagesse et d'intentionnalité dans notre appréhension. Donc appréhension, pas la peur, mais appréhender, dans le sens de prendre, du futur. C'est-à-dire que si je n'ai pas compris au moins un peu ce que j'essaie d'expliquer ce matin, et si j'en fais rien, parce que je peux le savoir et rien en faire, ben je vais passer ma vie à faire du ski nautique derrière le temps. C'est sympa le ski nautique, mais c'est fatigant. Hein. Si vous avez essayé d'en faire, ça tire sur les bras. Hein. Puis surtout, ce qui est désagréable, c'est que vous ne maîtrisez rien. Vous essayez juste de ne pas vous enfoncer, parce que quand en plus on se casse la figure, ça fait mal. Hein. Et on essaie, voilà, de rester à plomb et le temps c'est une horreur. Après, je suis stressé, j'ai l'hypertension, je dors mal, j'ai besoin de médicaments, j'ai besoin de vacances. Et puis en vacances, qu'est-ce qu'on fait? On se met au programme de fou furieux. Et on est comme ça, c'est encore pire. Avec... Et non. Nous sommes maîtres de notre temps. Pas du temps des autres, pas du temps en général, pas de la fin de nos vies. Mais tant que je suis vivant, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Faut qu'on arrête d'utiliser ce verset que pour les gens qui croient qu'ils vont en enfer, on ne sait même pas s'ils y vont aller. Aujourd'hui, c'est pour moi le jour de sauver, de racheter mon temps. Je m'en vais mission, hein. Parce que... le temps d'aller marcher dedans. Parce que les jours sont méchants. Ça veut dire, c'est ça, les jours sont méchants. En fait, le présent, le passé, ils veulent que je regarde rien. Qu'il me reste rien. Soit parce que j'ai peur, soit parce que je pense pas, soit parce que je fais rien. Soit... Non. Et je dois m'imposer. À mon fouet, c'est moi le chef ici. Hein? Et je vais décider. Alors, on n'y arrive pas, pas bien, pas assez. Pas... Mais au moins, il faut déjà le vouloir. Et après, il y a des décisions à prendre toutes simples. Puisque j'ai que 24 heures dans ma journée, que 7 jours dans la semaine, etc., etc., qu'est-ce que j'en fais? Alors, ok, il y a des réalités. Voilà, je travaille de là à là, mais je n'ai pas le choix. Il faut manger, vous payer les factures. Ok, ça, c'est bloqué. Mais quand vous avez enlevé ça, hein, ok, j'ai des enfants, ça prend ça, ça, ça. Les enfants, surtout petits, c'est chronophage. Vous ne l'avez pas dit. C'était terrible, c'est terrible. Mais quand même là, honnêtement, même là, il reste quand même un peu du temps. Ok, il faut du temps pour dormir. Voilà, voilà, mais même là, il reste encore du temps. Hein. Alors bien sûr, voilà, certains moments de nos vies, c'est plus facile de gérer notre temps qu'à d'autres. Hein. Moins on a de gens qui dépendent de nous, plus c'est facile. Mais c'est pas forcément mieux quand on observe. Je connais plein de retraités dans cette salle que j'essaie de rencontrer depuis 4 ou 5 ans qui n'ont jamais eu besoin encore. Donc c'est pas forcément plus facile. Quand je suis ici, en Suisse, j'appelle mes parents une à deux fois par semaine, on parle une heure au téléphone. J'ai passé une semaine avec eux, je les ai mis 10 minutes. Avec eux, pardon, j'ai passé une semaine à 50 mètres de chez eux. J'avais pas le temps. Hein? Voilà. Hein? Alors, j'ai fait des projets pour l'an prochain, pour que ce soit différent, je sais pas si j'y arriverai. Au moins, je veux essayer. Hein? De me dire, voilà, j'ai une intention, mon intention c'est de bloquer ces plages de temps-là, pour ne pas arriver à une personne à l'éternité. Et après, il faut de la discipline. Alors, la discipline dans la bouche, c'est un mot qui fait mourir de rire. La personne la moins capable de discipline de toute la planète. Mais il en faut. Hein? Il en faut. La seule chose, c'est qu'en général, dans le christianisme, on met la discipline là où il ne faut pas. Discipline pour s'obliger à faire des choses qu'on ne veut pas faire, genre, il y a ça du blanc, ça me gonfle. C'est pas ça qu'il faut faire. Je dois être meilleur, je dois plus me mettre en colère si je suis colérique. Vous n'y arriverez pas. Je dois être patient si je suis impatient. Vous n'y arriverez pas. Vous pouvez être transformé, mais vous n'y arriverez pas en voulant le faire. Donc la discipline, elle s'applique à quoi? C'est que je dois prendre le temps au départ et me dire qu'est-ce que je veux faire avec mon temps de façon réaliste. Et une fois que j'ai décidé ce que j'allais en faire, je dois me discipliner à respecter ce que j'ai décidé. Rousseau, qui disait des fois des bêtises, mais des fois des choses très vraies, a dit « L'obéissance à la règle qu'on s'est fixée est liberté. Hein? » La liberté, c'est ça. J'ai décidé que je me prenais cette plage de temps-là, celle-là ici, celle-là ici, celle-là ici. Chacun devant Dieu, chacun son rythme, on ne compare pas, il n'y a pas de... Voilà. Et maintenant, je vais essayer de tenir ça ou de mourir en essayant de le tenir. Et là, il faut être déterminé. Il faut. Et là, on a besoin les uns des autres aussi. Parce qu'il y a des choses que tout seul, on n'y arrive pas. Je le dis, je le redis, mais ce n'est même pas une blague, c'est vrai. Je suis pasteur parce que c'est une des rares choses qui m'aide à me discipliner, à lire un peu la Bible, à l'étudier un peu et à prendre du temps avec Dieu. Sinon, je ne le fais presque pas. Bon, c'est pratique, je suis obligé, c'est mon métier quand même. Comme je suis honnête. Quand je serai à la retraite, ça va être compliqué. Il y a tellement d'autres choses que je pourrais faire. Je m'y prépare. Voilà, donc, notre passé, maintenant, notre futur. Et puis, je vous encourage, maintenant je vais redevenir sérieux, j'ai toujours été, mais je reste ça, un peu sérieux. N'attendez pas 15 jours, un mois, essayez de penser, pas tout de suite parce que vous m'écoutez, mais juste après. C'est quand que je peux avoir un moment, très bientôt, juste réfléchir à ça et décider ce que je veux faire. la semaine à venir, peut-être je vais en passer régulièrement ou pas. Chacun a sa méthode, hein. On peut décider chaque jour je décide pour aujourd'hui, chaque jour je décide pour demain. Ensuite, j'imagine aujourd'hui je décide pour 2028, mais c'est pas grave. Peu importe la méthode, mais je décide des choses. Et puis, bien sûr, quand on échoue, la culpabilité n'est jamais un bon carburant. Ben, j'ai échoué, ok. Seigneur, j'ai échoué, pardon. Au moins, le moment où je lui ai demandé pardon, paf, c'était une pierre éternelle. C'est déjà pas mal. Mais j'ai au moins sauvé ce moment-là. Et puis, je recommence, on pourrait toujours, parce qu'il m'aime toujours. Et puis, ce qui va nous aider par rapport au futur, et je termine avec ça, c'est que pour le futur, on a la foi, l'espérance et l'amour qui nous aide à vivre le présent. Hein. De la même façon que j'ai dit, puis c'est pour ça que je voulais développer long les trois, mais je n'ai pas fait. En fait, j'ai fait long, comme ça va plus. Le passé, ben, il y a le pardon, toutes ces choses-là, pour traiter ce qui n'est pas bon, voir ce qui est mauvais, mettre de côté. Mais pour l'avenir, on a la confiance en Dieu. On ne sait pas de quoi demain sera fait. On a une certitude, une seule, qui est inconditionnelle. C'est qu'il sera avec nous à chaque seconde de notre présent, qui est encore un futur, jusqu'à ce qu'on arrête de respirer sur cette terre, et ça continuera après, ça ne s'arrête pas. Il n'y a même pas un « et ça repart, ça s'enchaîne. Pour être absent de ce corps, c'est dans la présence du Seigneur. Il y a continuité, parce que la vie éternelle, elle commence maintenant et elle ne s'arrête pas. C'est juste pour notre véhicule de vocation qui nous transporte que ça s'arrête. Le reste, ça continue. Mais l'espérance, hein, qui est une petite chose, et je ce verset qui est magnifique, voilà, Romains 5, 5. Or, l'espérance ne ment point, ne trompe point, ne nous arnaque point. Parce que l'amour de Dieu est présent, répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le problème du futur, c'est quand il nous demande de sacrifier le présent pour un truc qu'on aura peut-être demain. Ça, c'est une arnaque. Hein? Donnez-moi des sous et demain vous serez riche. Vous les donnez maintenant et demain vous serez riche. Ouais, d'accord. Hein? Non, c'est l'espérance ne trompe pas, donc j'attends quelque chose du futur parce que l'amour de Dieu, c'est pas sera répandu. J'ai réalisé il y a longtemps, hein, pendant des années, j'ai lu ce verset en disant sera. Il a toujours été écrit au présent. Hein? Moi, je disais, l'amour de Dieu sera répandu dans mon cœur, parce que ça parlait d'espérance. Non. Et répandu. Et c'est le dernier point que je vous laisse à développer, c'est qu'en fait, ce qui nous donne l'énergie, le carburant plutôt, hein, le carburant pour vivre le présent, au présent, maintenant, et pour décider ce que je vais faire de mon passé et de mon futur, c'est l'amour qui est répandu au présent, en permanence, dans mon cœur, par notre connexion à la vie de Dieu et par Dieu qui donne toujours. Donc on a tout ce qu'il faut. On a le carburant, on a la compréhension, on a les outils pour traiter le passé, on a l'espérance pour le futur, on a été tous dotés d'une capacité de décider quand même les choses, même si on n'est pas toujours capable de réaliser. Donc on a tout en main pour gérer notre temps, pour le cultiver. Après c'est un défi, j'ai besoin de vous, j'espère essayer de vous aider, et puis qu'on puisse aborder cette année ensemble comme ça. Merci de m'avoir écouté aussi longuement. Seigneur, merci pour le temps que tu nous accordes ensemble. Et puis on te demande que tu nous aides à comprendre comment gérer ce temps que tu as inventé, que tu as créé, dans lequel tu nous as placés. Et puis d'en avoir une bonne compréhension, une bonne utilisation avec l'énergie que nous donne ton amour. Amen.